Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le mondial de football, le Maroc s'apprête à jouer sa qualification pour les huitièmes de finale cet après-midi. Les Lions de l'Atlas se joueront à 16h face au Canada. Nous écouterons le journaliste et chroniqueur marocain Abdellah Tourabi. Malgré le premier succès de son histoire contre l'équipe de France championne du monde en titre, la Tunisie est éliminée du mondial. Nous y reviendrons avec Riyad Chaibi, président de l'association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie. La vacance présidentielle au Liban, pas de nouveau président élu à l'issue de la 8e séance électorale ce matin. L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri, détenu sans accusation formelle, doit être expulsé dimanche prochain en France. Salah Hamouri est détenu dans une prison israélienne depuis le mois de mars dernier. Il s'est ouvert hier le procès des attentats de 2016 à Bruxelles, attentats qui avaient fait 32 morts et des centaines de blessés. Sur l'impact d'un tel procès pour les rescapés et les victimes, entretien dans votre journal avec Guillaume Denois de Saint-Marc, fondateur de l'Association française des victimes du terrorisme, administrateur de V Europe, partie civile dans ce procès. Ce sera demain au Cabaret Sauvage. Le groupe Labesse se produira sur scène, un groupe algéro-québécois qui a de nombreuses influences musicales. Nous écouterons son leader, Nedjim Bouizoul. Le mondial de football au Qatar dans le groupe F, Maroc, Canada et Croatie-Belgique. À 16h cet après-midi, le Maroc avait été la première équipe africaine de l'histoire du mondial à passer le premier tour en 1986 avec 4 points. Le Maroc a aujourd'hui besoin d'une victoire ou d'un nul pour valider définitivement son ticket pour les huitièmes de finale. Sur la ferveur au Maroc, quelques heures avant ce match, le journaliste et chroniqueur marocain Abdellah Tourabi.
Alors évidemment aujourd'hui, c'est un jour bien sûr qui est un peu particulier aujourd'hui, très particulier parce que probablement le Maroc pourrait se qualifier au 8e de finale. Je rappelle que la dernière fois le Maroc s'est qualifié au 8e de finale, c'était en 1986 où il avait affronté l'Allemagne, d'ailleurs qui pourrait être un éventuel adversaire du Maroc si le Maroc passe au 8e de finale. La dernière fois, comme je l'avais dit, c'est en 1986, donc il y a une grande partie des citoyens marocains qui n'ont pas assisté à cet exploit. Donc il y a une effervescence, il y a une attente. D'autres années où il y avait une euphorie ou bien sûr qui était grande. Maintenant il y a une grande prudence parce qu'on a vu ce que s'est passé dans d'autres matchs. On a vu qu'il y avait des équipes qui avaient besoin juste d'un match nul quand ils étaient éliminés. Enfin, l'exemple de l'Iran ou de l'Équateur. Et on a vu aussi certains pays arabes, notamment nos amis tunisiens qui ont été éliminés, bien que ils avaient l'équipe tunisienne a gagné contre France. Donc il y a une grande prudence, une grande méfiance, mais en même temps il y a un optimisme qui existe au sein de la population marocaine. D'autant plus que aujourd'hui c'est un jour de pluie. Vous connaissez très très bien. Il pleut à Casablanca en tout cas, et vous connaissez très bien les liens qui sont entre le Maroc, qui est un pays agricole, et la pluie. Voilà, on est en train de passer par une période un peu difficile de sécheresse. Donc aujourd'hui c'est une double jour d'euphorie. Il y a d'abord l'équipe nationale qui joue, mais aussi c'est un jour de pluie. Donc voilà, c'est un peu particulier aujourd'hui à Casablanca et au Maroc.
Et quels sont les principaux atouts des joueurs des Lions d'Atlas?
Il y a plein d'atouts actuellement pour l'équipe marocaine. C'est une équipe qui est assez spéciale. Je pense que c'est la meilleure équipe dont dispose le Maroc depuis des années, probablement depuis 86. Tout d'abord, il y a une ossature qui est composée de joueurs qui jouent au plus haut niveau. On rappelle quelques joueurs. Hakimi qui joue au PSG, Mazraoui qui joue au Bayern, Amrabat qui joue à Fiorentina, Bono qui a été élu meilleur gardien au championnat espagnol l'année dernière. Donc il y a une équipe qui est assez forte et assez solide.
Le journaliste et chroniqueur marocain Abdellah Tourabi est dans le groupe E à 20h ce soir, face à face Japon, Espagne et Costa Rica, Allemagne. La victoire hier soir de la Tunisie face à l'équipe de France de football lors de la 3e journée des poules. Victoire 1-0. Malgré cette performance, les Aigles de Carthage n'accèdent pas au 8e de finale et les Bleus terminent tout de même en tête du groupe. Retour sur ce match et sur l'importance du sport dans la coopération entre la France et la Tunisie avec Riyad Chaibi, président de l'Association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie.
Je souhaitais que la Tunisie quand même se qualifie pour qu'on ait la France et la Tunisie qualifiées. Ça aurait été un beau symbole. Donc effectivement, une victoire de la Tunisie ne m'a pas déplu. Malheureusement, c'est une victoire un peu au goût amer parce que la Tunisie n'avait pas, notre destin entre nos mains et qu'on était dépendant de l'autre match entre le Danemark et, et l'Australie. Donc c'est une victoire au goût amer.
Et qu'est-ce qui vous a frappé dans ce match?
L'engagement des Tunisiens, l'énergie déployée. J'ai regretté qu'il n'y ait pas cette même énergie, cette même soif de victoire dans le précédent match contre l'Australie, qui nous aurait, je pense, facilité grandement la situation. Mais je m'attendais à un engagement, mais pas un engagement aussi, un engagement aussi frontal. Hein. La Tunisie est carrément rentrée dans les joueurs français et ils ont montré qu'ils avaient beaucoup plus faim. La France, je pense, a abordé ce match avec une certaine décontraction, une certaine facilité, étant déjà qualifié. Mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils soient autant bousculés. C'est pour ça que je parle de victoire au goût amer. C'est parce que je regrette que la Tunisie n'ait pas eu cette même agressivité, dans le bon sens du terme, lors du précédent match.
Rayed Chaibi, vous présidez une association qui promeut la coopération entre la France et la Tunisie. Quelle est l'importance du football et du sport plus globalement dans cette coopération?
Globalement, en Tunisie, le football est une institution. Je pense que c'est l'une des rares choses où les Tunisiens arrivent à se retrouver et à se fédérer. C'est une véritable institution, il y a une ferveur populaire. Quand on dit que le football est un sport populaire, et bien en Tunisie, ça prend tout son sens. Et c'est vrai que dans cette ferveur-là, on a vocation, nous également, à accompagner cette ferveur en étant aux côtés des clubs. Alors, on n'a pas encore monté d'action de ce type, mais on est tout à fait disposé, en tout cas, à apporter notre soutien, notre appui dans le développement des clubs sportifs, notamment par l'envoi, le don d'équipements, de crampons, de maillots notamment, et puis mettre le focus également sur les équipements sportifs, puisque malheureusement la Tunisie a des équipements sportifs parfois un peu désuètes, et donc il y a nécessité d'accompagner la Tunisie également dans ce volet-là. Et le paradoxe, c'est que la Tunisie a des graines de champion de venir, mais malheureusement ne dispose pas forcément des infrastructures nécessaires pour accompagner justement l'éclosion de ces jeunes pousses et de ces pépites.
Rayed Chaibi, président de l'Association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie. Toujours pas de président au Liban. Les députés libanais se sont réunis ce matin au Parlement à Beyrouth pour une 8e séance consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République. Le poste est vacant depuis la fin du mandat de Michel Aoun le 31 octobre dernier. Le prochain rendez-vous électoral pour les députés est fixé à jeudi prochain. Deux Palestiniens ont été tués dans un raid israélien en Cisjordanie occupée. C'est arrivé aujourd'hui à Jenin. Les personnes tuées sont un commandant du djihad islamique et l'un de ses proches associés. L'avocat franco-palestinien Salah Amouri, détenu sans accusation formelle, doit être expulsé dimanche prochain en France. Ses avocats ont pour le moment été prévenus par voie orale de cette décision, comme le souligne à Radio Orient son épouse Elsa Lefort. Salah Amouri est détenu dans une prison israélienne depuis le mois de mars dernier. L'ouverture hier du procès des attentats de 2016 à Bruxelles. 10 hommes sont jugés dans ce procès hors normes. Ils sont accusés d'avoir participé à ces attaques terroristes le 22 mars 2016. Attentat qui avait fait 32 morts et des centaines de blessés. Deux hommes s'étaient fait exploser dans le hall des départs de l'aéroport Zaventem et un troisième dans une station de métro. Entretien avec Guillaume Denoy de Saint-Mar, fondateur de l'Association française des victimes du terrorisme, administrateur de V Europe. Il est partie civile dans ce procès. Guillaume Denoy de Saint-Mar.
Ce procès est un procès qui va être très long, pour lequel nous avons tout fait pour préparer justement les victimes. Procès qui va ressembler à celui des attentats de Paris, pour lequel on a eu aussi un procès fleuve avec de nombreuses parties civiles. On est un peu dans le même cas de figure et en plus avec malheureusement un protagoniste dans les deux cas qui est identique. Donc c'est un procès d'assises, un procès dans lequel il y a des jurés, qui est une particularité en Belgique par rapport à la France, pour lequel il n'y a pas de juré pour un procès terroriste. Là, on a des jurés, mais c'est un procès qui va forcément être très compliqué pour les victimes, d'autant plus que les victimes de cet attentat ont été très mal accompagnées. Elles ont été accompagnées principalement donc, par les associations, mais elles n'ont pas de fonds de garantie, comme on peut l'avoir en France, et comme on aimerait qu'il y en ait partout. Et elles doivent se battre avec les assurances et il n'y a pas de structure nationale d'accompagnement organisée par l'État. Et donc tout le travail d'accompagnement est fait par les associations avec souvent des moyens assez maigres, même s'ils ont pu être augmentés ces derniers temps. C'est vraiment un travail de long terme et on voit à quel point d'ailleurs les victimes souffrent puisqu'il y a eu énormément de suicides de la part des victimes de ces attentats-là, notamment une qui a a réussi, qui a voulu se faire euthanasier et qui a été euthanasié. Donc on voit bien que c'est l'accompagnement par l'État est complètement déficient.
Vous évoquez cette souffrance. Quel type de souffrance émane de ces personnes, de ces victimes ?
La principale souffrance est une souffrance psychologique qui est liée au choc post-traumatique et à l'absence de réponse de la cible véritable qui est l'État. Tant que l'État ne réagit pas pour les victimes du terrorisme, en les accompagnant, en leur faisant obtenir de la reconnaissance, en étant dans la bienveillance et l'accompagnement, ces victimes resteront malheureusement traumatisées. Parce que ce n'est pas de la part des auteurs qu'elles vont obtenir quelque chose. Elles peuvent attendre quelque chose que de la part de la cible véritable, qui est l'État et la société. Dans les États où il n'y a pas d'accompagnement pour les victimes du terrorisme, on s'aperçoit que les souffrances psychologiques perdurent et ne guérissent pas, ou guérissent très mal.
Et pourquoi un tel procès est important pour la reconstruction des victimes, notamment psychologiques ?
Tout l'objet de l'accompagnement des victimes, c'est d'arriver d'abord à leur donner un statut, une reconnaissance, enfin le fait qu'elles acceptent qu'elles sont victimes, je pense notamment aux victimes psychologiques, quand on est victime physique, ça se voit, quand on est victime psychologique, ça ne se voit pas. Et donc il faut les accompagner, qu'elles acceptent d'être prises en charge et d'être accompagnées, et ensuite les aider à sortir d'une position victimaire. Et cette sortie de position victimaire passe par sortir de la voie, qu'on dirait naturelle, qui est celle de la douleur, de la haine, de la vengeance, de la revanche, mais pour aller vers des notions de justice, d'équilibre. Et donc la justice est indispensable pour ces victimes. C'est un élément fondamental de leur reconstruction. Elle délègue à la société le fait de rendre justice, c'est-à-dire qu'elle recrée le lien social et le lien avec la société qu'elles ont perdu, puisqu'elles ont été l'outil pour frapper cette société, et c'est du fait de cette frappe qu'elles sont devenues victimes du terrorisme.
Parallèlement, un tel procès ne risque-t-il pas de faire remonter des traumatismes ?
Alors ce type de procès, bien sûr, est des moments où on va revivre la tragédie, revivre ce qu'on a vécu, c'est des moments pénibles, mais ce sont des moments aussi où on va revivre finalement tous les cauchemars qu'on n'arrête pas d'avoir tout le temps. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir parler de sa souffrance devant un public qui est attentif à ce qu'on va dire. Et ça participe de la reconstruction. Et donc le fait d'avoir un spectateur, un acteur muet, on va dire, du procès pendant toute la partie des autres prises de parole, des témoins, etc., voire des accusés, il y a le moment où les parties civiles vont pouvoir s'exprimer, qui est un moment fondamental, où elles vont pouvoir exprimer leurs particularités et pour faire comprendre ce que c'est que le terrorisme. Et ce moment-là est aussi un moment où elles vont très souvent refaire la paix avec elles-mêmes parce qu'elles sont enfin entendues, et entendues par une institution qui est la justice.
Guillaume Denoy de Saint-Marc, fondateur de l'Association française des victimes du terrorisme, administrateur de VE Europe, partie civile dans ce procès à Bruxelles. Les médecins généralistes ont entamé aujourd'hui une grève de 2 jours, un mouvement que la France n'avait pas connu depuis 20 ans. Le syndicat Les Généralistes CSMF affirme que les 3/4 des cabinets au moins garderont leurs portes fermées. La principale revendication est liée au tarif des consultations. Le groupe La Besse se produit demain, vendredi, au Cabaret Sauvage. Le leader du groupe, Nedjim Bouizoul présentera son dernier album, influencé par un long séjour en Colombie, mais le groupe algéro-québécois a de nombreuses influences médicales. Nedjim Bouizoul.
Moi, j'ai grandi avec mon père qui était guitariste-bassiste, et puis donc avec lui, j'avais tout le répertoire plutôt folk, songs, tout ce qui était Bob Dylan, John Bass, Pink Floyd, côté rock et tout, et chansons françaises aussi. Donc tout ce qui est Georges Moustaki, Brassens, Graham Wright et tout ça, quoi. Et après, petit à petit, moi, j'ai eu ma phase rap, phase un peu hard rock. Après ça, j'ai eu ma phase shabby aussi, musique traditionnelle populaire algéroise. Et après, j'ai découvert le flamenco. Et quand j'ai découvert le flamenco, j'ai baigné dedans pendant des années et des années. Puis quand on est arrivé au Québec, là, il y avait vraiment... des gens de partout, quoi. C'était comme un melting pot, comme on dit. Et du coup, j'ai découvert plein de musiques différentes. Tout ce qui est des îles, Haïti, Cuba, Brésil, tout ça, quoi. Et Donc c'est un peu ça, musique du Cap-Vert avec César Evora.
Alors vous avez été musicien de rue avant de vous produire sur des scènes prestigieuses comme le Cabaret Sauvage le 2 décembre. Qu'est-ce que ça apporte le fait d'avoir joué dans la rue à la composition musicale, au rapport qu'on a à la musique ?
Tant qu'à moi, c'est la meilleure école parce qu'on développe aussi un côté théâtral. On apprend plein de choses, en fait. Il n'y a pas de barrière. Moi, je sais que quand je suis arrivé d'Algérie et que j'ai atterri dans les métros de Montréal, quoi, bah, en fait, on voit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et puis, il y a un contact direct avec, avec les gens aussi, de toutes sortes. Et puis, ça aide vachement à développer une carrière, à composer... En tout cas, moi, je prône cette école-là, quoi.
Alors, comment est né votre groupe, L'Abbesse ? Quand on choisit un nom pareil, ça donne une certaine couleur aussi à la musique.
D'accord. Donc, le groupe est né à Montréal. Et c'est vraiment une aventure musicale, quoi, avec des musiciens montréalais. Et puis, le nom, en fait, je ne savais pas trop au début comment nommer le groupe. Et la mère de mon enfant chantait une chanson qui s'appelait « L'Abbesse », c'est une chanson marocaine. Et elle m'a dit, pour L'Abbesse, je trouve qu'il y a L'Abbesse, ça sonne super bien. Et du coup, j'ai enlevé le YA et j'ai mis L'Abbesse, quoi. Et par rapport à mon parcours, je trouvais ça intéressant. C'est un peu extérioriser ce qu'on a vécu en Algérie, tout ça, et dire tout va bien, c'est un nouveau départ. Allez, on en fait quelque chose de positif, quoi.
Alors, vous nous l'avez dit, vous êtes très influencé par des musiques venant des quatre coins du monde. Quel rôle a joué la musique colombienne dans vos choix musicaux ces dernières années ?
En fait, donc la musique colombienne, elle a vachement influencé parce que j'y ai vécu, tout simplement. En fait, je suis parti pour une résidence artistique canado-colombienne et j'ai adoré ce pays-là et j'ai adoré leur musique. Et je sentais qu'il y avait des influences vachement africaines. Et par la force des choses, j'ai découvert qu'il y avait une influence même berbère africaine, donc nord-africaine, dans leur cumbia et tout ça. Et du coup, j'y ai vécu un an et demi. J'ai monté un groupe là-bas avec des Colombiens et des Cubains. Et c'était un long processus parce que au début, leur musique prenait le dessus. Parce qu'en fait, il n'y avait que moi, guitare-voix et mandole, le double corde, quoi. Et de l'autre côté, ben, il y avait des cuivres, des percus, tout ça. Donc la cumbia et le vallenato prenaient le dessus. Alors je suis revenu en renfort avec des musiciens, avec Timoch en l'occurrence, qui est un maître de la musique traditionnelle de chez nous. Et je suis revenu avec un pote percussionniste à la Darbouka et avec un violoniste français aussi. Et donc quand on est reparti, là j'étais content parce que ça prenait tout son sens et le mélange se faisait vachement mieux. Et donc après j'ai défendu ce projet pendant des années. Après c'était un peu compliqué de déplacer tout le monde tout le temps en tournée en Europe et tout. Et donc là, il y a un très bon ami qui a intervenu, qui s'appelle Simon Demoveau, qui a réalisé et co-arrangé le dernier disque de L'Abbesse. Et lui, en fait, il m'a dit, bon, fais-moi écouter ce que tu as fait là-bas. Je lui fais écouter. Il me dit, écoute, ça on peut faire ici, ça on peut faire ici, ça on peut faire ici. Par contre, les cuivres, les percus, tout ça, c'est vrai qu'il y a un charme et un son à eux, propre à eux. Et du coup, vaut mieux que tu le fasses là-bas. Donc c'est pour ça que la musique colombienne, elle a vachement influencé le dernier disque. Et ce disque-là, il s'est fait entre la France, la Colombie et le Québec.
Le leader du groupe L'Abbesse, Nedjim Pouizoul, il répondait à Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient à 12h30, votre journal en langue arabe avec Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 12h19. Thank you.